Vous allez écouter Quartier Libre, une émission réalisée par les bénévoles des centres sociaux et culturels du Tricadou et de Ville-Marie en partenariat avec le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin et la Ville de Carpentras.
Bonjour et bienvenue sur RTVFM pour ce nouveau numéro de Quartier Libre, l'émission qui donne la parole aux habitantes et habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville de Carpentras. Elle sera animée comme d'habitude par René, habitante du quartier Ville-Marie-Bois-de-Lubac de Carpentras. Bonjour René, comment vas-tu ?
Bonjour Alain, écoute, je vais superbement bien.
Je suis ravi de te recevoir dans les studios de RTVFM pour cette émission, pour ce nouveau numéro.
Écoute, c'est toujours un plaisir d'être là.
Merci René. Algaman sera animé par Mounia et Josie, habitants le centre-ville de Carpentras. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Alain.
Oh, en cœur, c'est magnifique.
C'est super.
Magnifique. Comment vas-tu Josie ?
Très bien, moi aussi, très contente comme René d'être là. C'est toujours un plaisir de discuter.
Le mois de juillet, c'est estival, voilà. C'est les vacances.
Bientôt, bientôt.
Quartier Libre, l'émission aussi qui parlera un petit peu des vacances. Voilà, on va en parler. Pas vraiment, mais bon, on est un petit peu dans le thème des vacances.
Elles sont déjà dans la tête de tout le monde.
Voilà. Et Mounia, comment vas-tu Mounia ?
Oui, ça va très bien, merci. Et comme elle a dit Josie et René, on est tous... On est super bien, ça fait plaisir de
se retrouver tous les quatre.
Oui, tout à fait.
Merci en tout cas à toutes les trois. Alors je précise, nous sommes en direct de nos studios de Carpentras-Serre et que la technique est assurée par Florian. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin, la Ville de Carpentras et bien sûr les bailleurs sociaux que l'on n'oublie pas. Alors on va vous donner le sommaire de cette émission et je crois que c'est Josie qui commence par nous annoncer une partie du sommaire.
Nous allons parler de la réhabilitation du Pou du Plan, avec pour commencer une interview de M. Monji Atef, qui est pilote du chantier. Ensuite, nous entendrons M. Philippe Brunet-Debène, directeur général de Mistral Habitat, ainsi que Mme Sophie Rigolet, monteuse d'opération en charge pour la réhabilitation du Pou du Plan.
Merci Josie pour une partie de ce sommaire et je crois que c'est René qui va nous parler de la deuxième partie de l'émission.
Alors la deuxième partie sera consacrée donc à la suite des parcours tests et des animations pied d'immeuble, le Pédibus prendra son départ à la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Donc la parole sera donnée à Monsieur Petron qui est référent du pôle adulte et accompagnateur du projet du Centre Ville-Marie. Ensuite nous aurons Jérôme Rondel du service Transport COV. Et on terminera par Slavica qui donnera son témoignage, qui est habitante et qui a participé au test du projet Pédibus.
Merci à toutes les deux pour ce sommaire. Alors effectivement, tu l'as annoncé Josie, on va parler une bonne partie de l'émission de la réhabilitation du Pou du Plan. Alors cette réhabilitation du Pou du Plan qui est le maître d'œuvre, c'est Mistral Habitat, hein, on peut le dire pour cette résidence du Pou du Plan à Carpentras. On va parler un petit peu performance énergétique. Alors pourquoi justement une réhabilitation ? Pour augmenter les performances énergétiques dans le but de réaliser des économies d'énergie, mais aussi le confort général, ce qui est très important, des logements ainsi que l'aspect des parties communes et leur sécurité. Voilà pourquoi depuis quelques années, il y a dans les tuyaux, dans le cadre d'un plan stratégique du patrimoine, le PSF, qui a été adopté donc par Mistral Habitat. Ils ont dressé tout ce constat de cette résidence sur les travaux qu'il y avait effectués et les travaux vont démarrer d'ici peu. Alors c'est très très attendu par les habitants, puisque Josie, on a eu l'occasion de se retrouver un petit peu tous les deux dans des réunions qui ont opposé...
Nous n'étions pas que tous les deux,
attention. Nous étions tous les deux, mais il y avait des habitants, habitantes, les bailleurs sociaux, des grandes discussions qui ont été engagées depuis de très nombreux mois. Ça y est, les travaux vont enfin démarrer. Les locataires...
Début juillet, je crois.
Voilà, les locataires les attendent avec impatience. Et c'est vrai, comme tu l'as annoncé dans le sommaire, on a eu l'occasion de recevoir plusieurs personnes et de discuter justement sur ce futur chantier. Dont le premier que nous allons écouter, c'est M. Atef, comme tu en as parlé tout à l'heure, M. Atef Monji, qui est pilote de chantier dans le cadre de la réhabilitation. Il va nous expliquer justement à quoi consiste son rôle de pilote de chantier dans cette réhabilitation de la résidence du Pou du Plan à Carpentras. On l'écoute. RTVFM se trouve aujourd'hui à l'entracte au Pou du Plan pour une réunion cadre de vie dont le thème était la réhabilitation du Pou du Plan. Et je me trouve donc en compagnie de Monsieur Monji Atef qui est pilote de chantier et il est également dans la conception et la maîtrise d'œuvre. Monsieur Monji, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette réhabilitation du Pou du Plan ? On en entend parler depuis déjà quelques mois. Où est-ce que nous en sommes de cette réhabilitation au Pou du Plan ?
Le projet aujourd'hui, donc, il est validé donc pour la partie exécution et réalisation de travaux. Aujourd'hui, le lancement de ce chantier, donc, il est prévu le démarrage donc pour la rentrée, donc début septembre 2019. Il y aura un logement témoin prévu en réalisation courant de mois de juillet et mi-août, que les locataires donc ils vont pouvoir visiter à la rentrée pour se projeter sur les aménagements prévus dans leur leur logement. Aussi justement pour échanger avec les locataires, donc pour effectivement les détails des travaux à réaliser chez eux, malgré que le programme il est déjà validé, acté, donc il y aura encore des échanges avec les locataires au fur et à mesure, donc des visites de ce logement témoin.
Alors on le sait, une réhabilitation, ça peut être un moment de stress pour les locataires. Quels conseils donneriez-vous aux locataires? Parce que vous allez effectuer, si je pense, un état des lieux. Vous allez donc aller chez eux pour un état des lieux. Quels conseils vous leur donneriez justement dans le cadre de cet état des lieux?
Donc moi, mon rôle principal aujourd'hui donc sur ce projet, en fait, c'est pour faciliter les interventions pour les entreprises et effectivement pour le mieux préparer les locataires, donc pour recevoir les entreprises et le déroulement des travaux chez eux. Il y aura une visite, on appelle ça une visite technique état des lieux, donc avant le démarrage des travaux, environ 4 à 5 semaines. Donc ces visites, moi je réexplique dans les détails donc les interventions d'un logement à l'autre. Donc des fois c'est les mêmes logements, mais malheureusement c'est pas la même prestation. Des fois on a un logement où le locataire il a une cuisine équipée. Nous on essaie toujours de conserver les éléments que le locataire il a approprié et qui aussi a financé personnellement. Donc nous on essaie d'adapter les travaux en fonction des locataires. Par contre il y a des choses qu'on peut pas conserver si ils sont pas conformes au niveau sécurité et au niveau réglementation. Donc c'est le but de cette visite. Donc je relève l'ensemble de ces éléments. Après j'échange avec le maître d'œuvre, c'est le responsable technique de cette opération, et le maître d'ouvrage qui valide donc l'ensemble de ces éléments. Deuxième détail pour la visite technique, le jour de l'intervention des entreprises, on prend exemple les interventions au niveau des chambres pour le remplacement des radiateurs. Donc s'il y a des meubles qui sont contre les murs, donc le locataire il faut qu'il nous déplace ces meubles pour éviter des incidents ou dégradations sur leurs meubles par les entreprises, et effectivement pour aussi gagner du temps pour le locataire et ensuite pour l'entreprise.
Alors, on l'a bien compris, un état des lieux qui est très important. Une fois que cet état des lieux a été réalisé, quel délai peut-on donner aux locataires? Quel délai vous leur donnez avant le début des travaux?
Entre l'état des lieux et le démarrage des travaux, en général, on ne dépasse pas 4 à 5 semaines. Parce que si on fait un état des lieux très très avancé, malheureusement, des fois, les informations ils sont oubliées par le locataire. Donc, pour cela, on maintient toujours un délai entre 4 et 5 semaines maximum pour le démarrage des travaux dans le logement concerné.
Si le locataire part en vacances, on arrive sur une période estivale, comment ça se passe? Est-ce que c'est reporté? Est-ce qu'on peut rassurer les locataires en disant que de toute manière, ça sera pour la rentrée?
Alors, nous, le but de ces travaux, c'est d'améliorer le confort de vie des locataires sans leur changer trop leurs habitudes, sans les bloquer s'ils ont des engagements administratifs ou ils ont des choses personnelles ou professionnelles. Donc nous, les dates d'intervention, ils sont communiquées aux locataires 4 semaines à l'avance, avec la date de démarrage et la date de la fin. Si le locataire il a un empêchement, il peut nous avertir, donc soit par téléphone ou par un courrier ou un mail qu'on va dédier aussi aux échanges avec les locataires. Et nous, on peut s'adapter selon des fois la présence ou l'absence des locataires. Mais c'est faisable, il n'y a pas de problème.
Alors, la réhabilitation va concerner une grande partie du logement, on peut le dire. Les parties sèches, les parties humides, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que les parties communes seront également refaites?
Les interventions, ils sont prévues pièces sèches. Quand on dit pièces sèches, c'est les chambres, pièces humides, cuisine, salle de bain et toilettes. Dans les chambres, les interventions de prévues, remplacement des équipements électriques et réseau chauffage et terminaux, donc les radiateurs. On ne fait pas de peinture dans les logements au niveau des pièces sèches. On ne fait que les pièces humides, peinture, carrelage, plomberie, électricité et quand on dit plâtrerie, c'est la partie placo. et de la menuiserie. Ces interventions, elles vont se dérouler premièrement la partie des pièces sèches, après la partie pièces humides, pour éviter que on fait un chantier dans l'ensemble de l'appartement avec la présence des locataires. Malheureusement, ça peut provoquer des gênes ou des problèmes pour les locataires. Donc pour cela, on va faire ces interventions premièrement pièces sèches, après pièces humides. Donc dans le timing déjà communiqué aux locataires. Après les parties communes, donc il y aura une mise en conformité de tout ce qui est éclairage des parties communes, révision des menuiseries des parties communes, revêtement de sol, carrelage et les peintures.
Voilà l'ensemble donc des travaux qui seront également effectués. Alors vous l'avez dit tout à l'heure en début de propos, un logement témoin sera à la disposition des locataires pour leur montrer, on peut leur dire un petit peu les travaux qui seront réalisés chez eux.
Nous, c'est prévu qu'on va démarrer des travaux pour un logement témoin qui va démarrer courant le mois de juin. Et normalement, date de livraison, c'est prévu mi-juillet. Les visites prévues, ça sera à la rentrée. Et ce logement, donc, on va faire les pièces humides, les pièces sèches et les extérieurs. Donc, ça sera à l'identique des travaux prévus chez les locataires. Donc, en voyant ce logement témoin, ils vont voir l'échantillon de leur futur logement aménagé.
Je suppose que ça sera sur rendez-vous auprès de Mistral Habitat pour pouvoir le visiter.
Alors, les visites donc des logements témoins, ils sont gérés par le cabinet PG Concept. C'est un bureau d'études et exécution d'ouvrages sur la Cortine à Avignon. Il y aura des rendez-vous prises avec les locataires sur site. Donc, c'est moi que je vais prendre les rendez-vous avec les locataires, et à l'issue donc les visites donc qui seront gérées par PG Concept. Donc on va présenter le projet et on va présenter aussi les choix aujourd'hui arrêtés par l'architecte et le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, donc les couleurs, les produits et les finitions.
Peut-être dernière question, la première tranche de travaux va durer en gros combien de mois si vous le savez déjà, et la deuxième tranche éventuellement de travaux?
Alors, aujourd'hui la première tranche donc on a prévu 18 mois. Donc pour ce délai, c'est un délai qui va être respecté parce qu'aujourd'hui, pour cette opération, c'est des entreprises sélectionnées parce que des entreprises ont l'habitude de faire ce genre d'opération. Ils sont formés pour des travaux en site occupé. C'est des entreprises qui ont un effectif conséquent parce que en termes de quantité d'ouvrages et il y a quand même une quantité de mètres carrés énorme à réaliser. Donc ça, c'est des travaux on peut mandater que à des entreprises. On va dire au niveau structure, c'est des entreprises importantes. Donc et le choix ça a été fait par des entreprises locaux, donc il n'y a pas d'autres entreprises qu'on a consultées ou on a retenues, voilà, hormis les entreprises locaux.
Une toute dernière question, j'ai oublié quelque chose de demander qui est important. Les travaux par appartement, combien de le délai pour les locataires, pour leur donner une période?
Le délai pour les pièces sèches, donc remplacement réseau électrique et réseau plomberie et quand je dis réseau plomberie, donc la partie chauffage. Et les colonnes montantes des eaux usées. Donc ça va se passer sur entre 48 heures et 72 heures. Ça, c'est terminé. On laisse deux petites semaines pour que le locataire il peut réinstaller son logement au niveau des pièces sèches. Après, quand on va démarrer les pièces humides, c'est un délai 8 jours. Donc, sachant que il y aura 5 corps d'État qui vont intervenir pour les pièces humides, plomberie, électricité, plâtrerie, donc placo, peinture, revêtement de sol. Donc 5 entreprises, ça va se passer sur 8 jours. Il y aura quelques jours où on va avoir 3 entreprises en même temps, mais ça, les entreprises, ils savent faire, donc il n'y aura pas de problème majeur là-dessus pour respecter le phasage et le timing des travaux. Sachant que je précise, les parties qui ne sont pas remplacées, revêtement de sol, au niveau des pièces sèches, dégagement, tout ce qui est accès pour intervenir, sera protégé par les entreprises. Ça, c'est des choses, nous, qui seront mentionnées, l'état des lieux avec un reportage photo, donc pour effectivement sécuriser sécuriser le locataire.
En tout cas, merci mon JATF pour tous ces renseignements. Nous parlions donc de la réhabilitation du Pou du Plan. C'était le thème aujourd'hui de cette réunion cadre de vie, ici même donc au Pou du Plan, dans la salle de l'entracte. Alors, je rappelle que vous êtes pilote de chantier, de ce chantier entre autres de la réhabilitation du Pou du Plan. Et vous êtes également dans la conception et la maîtrise d'œuvre. Encore merci d'avoir participé à cette interview.
Je vous en prie, merci à vous et à la prochaine.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, ben vous venez d'écouter effectivement M. Mongiatef, pilote chantier réhabilitation Pou du Plan, conception et maître d'œuvre, maîtrise d'œuvre. Alors René, tu es habitante du Bois de Lubac, Ville-Marie.
Oui, moi j'habite résidence Ville-Marie. Oui.
Il y a eu une réhabilitation aussi sur Ville-Marie.
Alors nous
années.
Avons eu il y a 5 ans une réhabilitation complète donc, de la cité, de la façade jusqu'au, ben, pour dire les choses telles qu'elles sont, jusqu'aux toilettes. Donc ça a été réhabilité complètement.
Voilà, hein. Donc c'est un petit peu la même chose que les habitants et les habitantes du Pou du Plan vont vivre. Alors, on l'a entendu, M. Atef Mongi, chef de chantier, il est là un petit peu aussi pour faire l'interface, rassurer un petit peu les habitants, leur dire comment ça va se dérouler. Il y a même un appartement témoin qui va être mis en place. Justement. Oui. Alors, est-ce que c'était le cas aussi sur Ville-Marie?
Alors, chez nous aussi, on a eu un appartement témoin. On a pu choisir certains matériaux et certaines couleurs pour égayer un petit peu les salles de bain. On nous a donné 3 couleurs différentes et chacun a choisi la couleur qu'il voulait, ou baignoire ou douche, en fonction de l'utilité du locataire.
Alors merci René, on entendra le témoignage d'une habitante justement sur un petit peu les inquiétudes quand on est locataire d'une résidence et qu'on voit ce chantier qui se profile. Alors, effectivement tout le monde l'attend avec impatience, mais après il y a toujours un petit peu l'inquiétude, ça va se passer dans mon habitat, combien de temps vont durer les travaux, mais M. Mongi lui a répondu en partie sur la durée. Alors est-ce que justement, quelles étaient les inquiétudes, ton inquiétude toi, quand l'appartement a été rénové?
Moi mon inquiétude c'était surtout de débarrasser la cuisine, tout ce qu'il y a dans une cuisine, frigidaire, congélateur, gazinière, lave-vaisselle, tout ça. On s'est retrouvé à faire du camping dans la salle à manger quand même. Mais ça a été que du provisoire. Ça a été très vite fait d'ailleurs.
Alors Mounia, toi, c'est pas tout à fait le même cas parce que c'est Mistral Habitat aussi, je crois, ton logement.
Oui.
Mais toi, tu viens de rentrer dans un logement qui est totalement neuf. Donc t'as pas eu effectivement ce souci de la réhabilitation qui se fait en cours de location. Mais comment tu prendrais les choses? Voilà, j'habite depuis quelques années dans mon appartement et d'un coup on va les réhabiliter. Il y a quelques soucis quand même sur tous les objets que l'on a à la maison.
Oui.
Ça peut faire un petit peu souci tout cela.
Oui, ça m'a fait beaucoup de soucis. Après la date qu'ils nous ont donnée, c'était pas chaque fois ils disent que c'est pas le moment, ils en retardent.
Ouais.
Voilà, à chaque fois comme ça. Même maintenant, même si j'ai déménagé au mois de février, la moitié de février, là jusqu'à maintenant j'ai de gros problèmes dans mon appartement.
Alors ça c'est encore autre chose, mais on n'est pas sur le Pou du Plan, mais on pourra en parler peut-être dans une prochaine émission dans le cadre de Mistral Habitat. Mais voilà, mais l'inquiétude, ce que je voulais savoir, c'est effectivement il faut rassurer le plus possible les locataires, leur dire, René, que c'est quelque chose qui se passe relativement bien.
Oui, ça se passe très bien parce que les entreprises qui sont là savent ce qu'elles font, savent un petit peu les délais qu'elles donnent aux locataires. Le seul petit bémol que je dois dire à toutes ces dames qui vont m'écouter, c'est qu'il y a beaucoup de poussière et beaucoup de ménage derrière. C'est tout.
Ouais, et ça, pour une dame, je crois que c'est très, très, très important.
Ça, malheureusement, il n'y a jamais de travaux sans poussière.
Ah ben ça, c'est clair.
Et oui. Alors, on a eu aussi l'occasion de recevoir dans les studios le directeur général de Mistral Habitat, M. Philippe Brunet-Debène, et également, madame, il est accompagné de madame Sophie Rigolet, qui est monteuse d'opérations en charge de la réhabilitation du Pou du Plan. Alors, c'est vrai qu'ils ont passé un bon moment avec nous, ils nous ont bien présenté, vous allez l'entendre dans ce sujet, dans cette interview, ils ont quand même bien présenté le sujet, Mistral Habitat, mais surtout ce qu'ils réalisent. Et eux aussi, ils ont essayé d'expliquer aux gens qu'il fallait être rassurés, que ça ne serait que du bonheur par la suite quand ils récupéreraient leur appartement qui serait totalement refait. Si vous le permettez, mesdames, on écoute aussi cette interview qui est un petit peu long, mais vous verrez, il est assez complet. On écoute. Dans le cadre de Quartier Libre, l'émission donc en partenariat avec la Cove Carpentras et l'État, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios M. Philippe Brunet-Debène, directeur général de Mistral Habitat. M. Philippe Brunet-Debène, bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons également Mme Sophie Rigolet, qui est monteur d'opérations en charge de la réhabilitation du Pou du Plan. Bonjour Mme Rigolet.
Bonjour.
Alors M. Debène, donc déjà merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement dans nos studios pour participer à cette émission Quartier Libre, qui est une émission, je dirais, un petit peu spéciale, puisque nous allons parler pendant toute cette émission de la réhabilitation réhabilitation du Pou du Plan, un gros dossier de la résidence. Moi, j'aime bien dire la résidence du Pou du Plan, n'est-ce pas, Mme Rigolone, résidence. C'est un dossier déjà dont on parle depuis déjà quelques années. Mais avant de démarrer peut-être par cette réhabilitation, Monsieur Philippe Brunet-Debène, peut-être nous présenter en tant que bailleur social, vous êtes quand même le premier bailleur social du Vaucluse. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu Mistral Habitat?
Avec plaisir. Alors, en effet, Mistral Habitat est le premier bailleur social du département de Vaucluse. Et ce, d'autant plus que depuis le 1er janvier de cette année 2019, nous avons fusionné avec l'autre office public de l'habitat du territoire, qui est Grand Avignon Résidence, qui était Grand Avignon Résidence, puisque désormais Grand Avignon Résidence fait partie de Mistral Habitat. Mistral Habitat, d'ailleurs, va prochainement changer de nom, donc on aura un nouveau nom qui viendra un petit peu être la synthèse de ce projet de fusion, qui est un projet très important. Ça permettra aussi de créer une nouvelle culture d'entreprise autour de cet office fusionné. Et ça conforte évidemment notre statut de premier bailleur social du Vaucluse, puisque nous allons gérer, à l'issue de ce processus de fusion, à peu près 17 000 logements sur principalement le territoire du département de Vaucluse, mais un petit peu également dans le nord des Bouches-du-Rhône et dans le Gard rhodanien, qui sont évidemment, avec le positionnement géographique d'Avignon, des territoires d'implantation naturelle pour notre office. Alors nous avons également un concurrent, mais qui est plutôt un ami, puisqu'il offre une offre complémentaire, qui est Grand Delta Habitat, qui est l'autre grand bailleur de ce territoire, qui a un statut coopératif, qui n'a pas tout à fait le même statut que nous, alors que nous sommes un office public de l'habitat. Nous sommes en fait dans un mouvement de concentration et de réorganisation du secteur du logement social en France, avec globalement des mesures économiques qui visent à limiter l'impact budgétaire pour l'État de ce domaine de compétences, et d'autre part aussi avec la loi Elan, qui est une loi qui aborde tous les aspects du logement, une volonté de concentrer le nombre d'opérateurs publics de logements sociaux à l'échelle nationale. Il y en a aujourd'hui à peu près 250. On va sans doute, à l'issue du processus de la loi Elan, descendre à une centaine tout au plus. Voilà.
Mistral Habitat, donc vous avez un plan stratégique volontariste, on en parlera tout à l'heure, et surtout on parlera d'amélioration des logements sociaux, c'est une de vos priorités.
Absolument.
Mais peut-être pour continuer sur votre avant-propos, combien d'agences avez-vous donc sur le département à l'heure actuelle?
Alors nous avons au total 4 agences de proximité. C'est évidemment un facteur très important pour nous, cette notion de proximité, puisque nous étions présents dans 68 communes avant la fusion. Aujourd'hui nous sommes présents dans près de 80 communes sur ce territoire. Ça nécessite évidemment d'avoir une proximité avec nos locataires, l'ensemble des parties prenantes, et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours été vigilants sur cette question de la proximité. Alors avec le projet de fusion, nous allons passer à 5 agences de proximité qui sont implantées dans les principales communes du Vaucluse, avec une particularité, c'est que l'office du Grand Avignon est évidemment très très présent à Avignon, ce qui justifie la présence de 2 agences de proximité dans le Grand Avignon. Mais pour le reste, nous serons présents et toujours présents à Cavaillon, à Orange, à Carpentras évidemment, puisque c'est aujourd'hui à l'heure du jour. Et la dernière agence, donc j'ai parlé de Carpentras, j'ai parlé d'Orange, j'ai parlé de Cavaillon, et donc Avignon avec 2 agences, qui nous fait 5 agences de proximité.
5 agences de proximité. Le plan stratégique du patrimoine, vous avez un plan stratégique entre 2016 et 2024. Celui-ci va-t-il continuer? Est-ce que la fusion va venir un petit peu le modifier? Comment ça va se passer, ce plan stratégique?
Oui, dans les grandes lignes, ce plan stratégique de patrimoine va être poursuivi avec un focus volontaire sur la réhabilitation de notre patrimoine, puisque ce patrimoine, il faut le reconnaître, a été insuffisamment entretenu au fil des années, et nous avons donc choisi, au travers de ce plan stratégique de patrimoine, de concentrer l'essentiel de nos efforts d'investissement sur la réhabilitation, tout en maintenant un effort de construction de logements neufs, puisque il y a une demande forte sur ce territoire, vous le savez, près de 15 000 demandeurs de logements, avec des besoins à la fois en zone urbaine, périurbaine, mais également en zone rurale, sur de petites opérations d'acquisition-amélioration. Et donc nous allons, au-delà de cet effort de réhabilitation, continuer à construire. Mais pour autant, le plan stratégique de patrimoine, qui est daté de 2016, va devoir être adapté, d'abord parce que nous avons fusionné évidemment avec Grand Avignon Résidence, ensuite parce que entre-temps, y a eu les effets des programmes de renouvellement urbain, il y a eu l'impact, j'en ai parlé tout à l'heure, de la loi de finances pour 2018, qui prévoit que l'État, vous le savez, baisse les aides personnalisées au logement et que cette baisse est complètement compensée par les bailleurs sous forme de baisse de loyer. Ce qui a un impact financier extrêmement lourd pour notre office, jusqu'à à peu près 5 millions d'euros de recettes en moins chaque année. Ce qui fait que, évidemment, il faut adapter notre plan stratégique de patrimoine, nos efforts d'investissement. Et c'est ce à quoi nous nous attelons en ce moment en révisant ce plan stratégique de patrimoine. Mais nous garderons les fondamentaux de ce plan voté en 2016, c'est-à-dire davantage de réhabilitation, environ 2500 sur la période, et toujours un effort de construction avec sans doute à peu près 160 logements livrés chaque année sur la période.
Sur la période. Madame Rigolet, vous êtes donc monteur, alors on vous appelle monteur d'opérations immobilières. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cette profession ?
Donc en fait, c'est une profession technique qui s'occupe de tout ce qui est travaux en fonction des orientations de la gouvernance, qui s'occupe des travaux en réhabilitation, en construction neuve, et ça va de l'étude de faisabilité, donc du tout début d'un projet, jusqu'à la gestion des études, des travaux, et de ce qu'on appelle la gestion de parfait achèvement, c'est-à-dire un an après la fin des travaux.
Donc votre profession est très importante. Alors monsieur Philippe Deben, le monteur d'opération intervient justement, on va parler réhabilitation, on va rentrer dans le vif du débat, réhabilitation du Pouls-du-Plan, intervient à quel moment cette profession intervient à quel moment en fin de
Alors
compte
évidemment très en amont du projet, nous assurons la maîtrise d'ouvrage de ces projets, nous appuyons sur des maîtres d'œuvre, mais ce sont les chargés d'opération dans l'office qui conçoivent toute la conception et le financement d'un projet de réhabilitation de cette envergure. Donc c'est évidemment un rôle très important. Le chargé d'opération va piloter l'intégralité de ce dossier et va surtout assurer la relation avec la maîtrise d'œuvre, ce qui est évidemment très technique et en même temps qui doit s'insérer parfaitement dans le dispositif de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les locataires au premier rang desquels, mais également les institutions.
Alors Madame Sophie Rigolet, la réhabilitation du Pouls-du-Plan, c'est vrai qu'on en parle déjà depuis quelques années. La première tranche, je crois qu'il y a eu des travaux qui ont été entrepris par anticipation. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Et est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces tranches et comment on va avancer un petit peu dans l'ensemble de ce projet, de cette réhabilitation et pendant combien d'années cela va durer?
Alors avant peut-être que Sophie Rigolet ne s'exprime dans le détail, moi je voulais rajouter un élément important, c'est que nous inscrivons dans une opération de réhabilitation qui a été évidemment validée par l'État, mais qui ne s'inscrit pas proprement dit dans un programme de renouvellement urbain tel qu'on en connaît en ce moment avec ce qu'on appelle le nouveau programme de renouvellement urbain à l'échelle nationale. C'est la deuxième vague, grande vague des opérations de renouvellement urbain qui sont donc aidées par l'État au travers de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, l'ANRU. Et donc ce projet à Carpentras ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Il y a trois projets dans le Vaucluse qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Un programme national dans le Grand Avignon, à Avignon, essentiellement autour de la rocade d'Avignon.
On a pu voir les effets effectivement quand on passe en voiture. On le voit que ça a été rénové, tous ces bâtiments.
Alors, on a commencé par anticipation sur certaines résidences, mais c'est vraiment les prémices de cette opération. En revanche, en effet, ça va s'accélérer maintenant et jusqu'à 2024-2026, on aura beaucoup d'opérations de réhabilitation. Ce qui se voit aussi sur la rocade, c'est l'opération de transport avec notamment le tramway qui est en train de se construire et qui sera mis en service, je crois, à la rentrée de septembre. Donc, je disais qu'il y avait d'autres programmes de renouvellement urbain dans le Vaucluse. À Avignon, j'en ai parlé, mais il y a également des programmes régionaux toujours à Avignon et puis à Cavaillon et Orange. Carpentras, pour plusieurs raisons, ne s'est pas inscrit dans ce programme de renouvellement urbain et donc nous menons cette opération hors NPNRU, mais toutefois, évidemment, avec l'accord de l'État qui a validé l'opération, le plan de financement, etc. Et je laisse maintenant la parole à Sophie pour détailler ce projet qui, vous l'avez rappelé à juste titre, est très attendu des habitants concernés, ce qui est légitime. C'est un projet qui a pris du retard. Il faut le reconnaître. Et je suis, moi, depuis 2 ans à la direction de Mistral Habitat et j'ai le plaisir de constater que ce projet avance enfin et que nous pouvons enfin communiquer auprès des habitants avec du concret. Parce que c'est toujours ça qui est important, c'est de pouvoir parler avec du concret et de ne pas se contenter de faire des réunions d'information pour annoncer un projet dont on ne sait jamais quand il arrive.
Quand il arrive.
Là, désormais, nous sommes dans le concret et c'est ça qui va intéresser les locataires et j'en suis très content.
Alors justement, on va démarrer un petit peu par toutes ces tranches. Première tranche, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi cela va consister? Qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme travaux? Il y en a même un petit peu qui ont commencé déjà.
Voilà, donc il y a 2 tranches. La résidence du Pouls-du-Plan a 432 logements. Donc la première tranche intervient sur 153 logements, les bâtiments D, G, H. Et donc la deuxième tranche sera sur les 279 restants. Donc, il y a eu effectivement des travaux par anticipation. Il y avait eu une concertation locataire de la première tranche en courant 2016. Et donc, en 2018, nous avons fait des travaux par anticipation, c'est-à-dire tout le remplacement des menuiseries et la ventilation mécanique de l'ensemble de ces 153 logements. Donc, pour le reste des travaux qui comprennent une réfection complète des salles de bain, des cuisines, des toilettes, une mise en sécurité complète électrique des logements, une réfection des parties communes, une réfection des façades avec une isolation par l'extérieur, une isolation des toitures terrasses. Donc là, pour tout l'ensemble de ces travaux, les entreprises ont été retenues et les OS de démarrage, ce qu'on appelle ordre de service de démarrage, a été signé début juin. Donc, dès le vendredi 21, nous allons commencer à être sur place pour faire les relevés, pour pouvoir tout lancer les travaux pendant cette période d'été, pour commencer les travaux effectifs dès septembre. Donc, par contre, dans un premier temps, nous allons faire un logement témoin qui sera terminé fin juillet et qui sera ouvert à l'ensemble des locataires de cette première tranche pour qu'ils puissent voir exactement ce qui sera réalisé dans leur logement.
Alors, est-ce que cet appartement témoin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire justement dans les résidences que vous rénovez pour rassurer un petit peu les publics, les habitants? C'est quelque chose que vous avez l'habitude de réaliser?
Oui, en général, on fait toujours un logement témoin pour justement que les locataires voient concrètement ce qui va être réalisé chez eux.
Alors, le choix de la rénovation sur l'ensemble des travaux, comment ça s'est passé? Qui est-ce qui détermine les travaux? Parce qu'à vous entendre, c'est vrai qu'il y a une liste assez importante. Finalement, c'est la totalité, c'est une très très grosse rénovation, réhabilitation.
Oui, c'est une très grosse rénovation, très lourde, effectivement. C'est en fonction du plan stratégique du patrimoine qui détermine les résidences prioritaires. Et ensuite, c'est un diagnostic technique qui est fait en premier lieu avec l'agence, puisque c'est le personnel de proximité qui est au plus près des locataires. On fait un listing des travaux qui sont prioritaires. Et ensuite, c'est la maîtrise d'œuvre qui fait un diagnostic logement par logement, qui visite toutes les parties communes et qui nous propose une liste de travaux.
D'accord. Alors moi, j'aurais une question à vous poser aussi sur l'inquiétude d'un locataire. Je dis, bon, les travaux, déjà peut-être la durée, et comment ça va se passer pendant la période des travaux? Parce que souvent, on se dit, mais je vais aller où? Moi, j'ai pas de famille. Est-ce que les travaux sont là? Est-ce que je vais pouvoir continuer à habiter, à demeurer dans mon logement?
Alors, tous les travaux se font en milieu occupé. C'est une habitude, ça se passe toujours bien dans les autres résidences, donc il n'y a pas de problème et je ne suis pas inquiète pour le pouls du plan. Sur cette liste de travaux, donc nous avons à peu près un planning de 7-8 jours de travaux par logement. Le but, c'est que quand on commence à travailler dans un logement, on ne part pas tant que le logement n'est pas complètement terminé. Voilà. Donc l'avantage sur cette résidence, c'est que nous avons un coordonnateur de travaux qui sera présent 4 jours par semaine et qui, lui, va faire l'interface entre les locataires, Mistral Habitat, les entreprises, et qui, justement, est là pour que les locataires soient le moins impactés possible au niveau de leurs travaux. Le moindre problème, les locataires ont ses coordonnées, le contact, et c'est lui qui va gérer ça. Et je pense qu'il y aura, ça se passera plutôt bien.
Ça se passera bien au niveau de la résidence. Il n'y a pas de raison, parce que c'est très, très attendu. Monsieur, comme je disais tout à l'heure, monsieur Philippe Brunet de Benne, les habitants l'attendent avec impatience. Vous avez souligné aussi le fait, le démarrage des travaux, déjà ils vont dire ça y est, notre résidence va retrouver une autre image. Peut-être l'autre jour, puisque nous étions présents dans la même réunion, alors les habitants ont souhaité, je sais que ça ne, c'est pas vous qui allez maîtriser ce changement, ils avaient envie justement de changer le nom de la résidence, tellement ils en étaient arrivés à un stade où finalement leur résidence, ils n'étaient pas ravis d'habiter là, puisque c'est vrai qu'on disait le pouls du plan, quand on passe à Carpentras, c'est pas très joli.
Alors oui, il est vrai que souvent on a ce type de réflexe parmi les habitants, mais c'est demandé également parfois par les collectivités territoriales. J'ai le souvenir par exemple de la première opération de réhabilitation qu'on a lancée depuis mon arrivée, celle de la nouvelle gouvernance en 2015, avec le président Jean-Baptiste Blanc qui était très attaché à cela justement, c'est qu'on a proposé de changer de nom en lien avec la municipalité de la résidence Victor Bache à Bolène, qui était connotée négativement, et on l'a appelé les Lauriers à la suite de l'opération de réhabilitation. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est qu'il y a une demande aussi qui remonte, je pense, surtout des habitants, mais peut-être aussi relayée par la municipalité, puisqu'on travaille vraiment de concert avec avec l'ensemble des partenaires pour peut-être justement repartir sur un nouveau nom qui va empêcher cette problématique de connotation négative d'une résidence. C'est vrai que ça fait partie de ces résidences qui ont été construites à partir des années 70 et dans le prolongement aussi dans les années 80, qui ont connu une évolution, il faut le dire, qui n'est pas très positive, hein, puisqu'on a concentré finalement beaucoup de problèmes sociaux dans ces quartiers. Et aujourd'hui, avec ces dynamiques de renouvellement urbain, un petit peu de dédensification aussi, oui. Un petit peu moins de logements, c'est pour ça que souvent dans les opérations de renouvellement urbain, on a une partie démolition, eh bien on va regagner du terrain, on travaille aussi quelquefois dans le cadre de résidentialisation. On essaye de faire émerger de nouveaux quartiers, de nouvelles résidences où il fait bon vivre, où il fait mieux vivre. C'est pas simple, hein, parce que les problèmes de drogue, les problèmes de délinquance demeurent, ils ne disparaissent pas, au mieux ils se déplacent. Mais ça fait quand même partie de l'opération de renouvellement urbain, et je pense que c'est important, il ne faut pas le négliger, ça peut paraître un détail. J'ai ce retour d'ailleurs au niveau de Mistral Habitat, puisqu'on a choisi nous aussi de changer de nom, c'était pour deux raisons principales. D'abord pour évidemment intégrer les nouveaux collaborateurs issus de Grand Avignon Résidence et pas garder un seul nom pour deux opérateurs qui fusionnent, mais aussi parce que historiquement, en partie à cause de ce manque d'efforts de réhabilitation et d'entretien du patrimoine, l'image de Mistral Habitat avait un petit peu souffert, et le changement de nom peut permettre de créer une nouvelle dynamique positive autour, et c'est pareil pour une résidence, je pense que c'est important, il ne faut pas le négliger. Et là, on n'a pas encore pris la décision, mais moi à titre personnel, et je pense que si on le propose au conseil d'administration, ce sera une idée retenue, une idée intéressante. Oui.
Merci. Peut-être la deuxième tranche,
oui,
donc.
J'allais justement y venir. Donc la deuxième tranche, nous allons faire effectivement également des travaux par anticipation concernant le remplacement des menuiseries et la ventilation. Donc là, les entreprises ont été retenues. Les commandes vont être passées dès le mois de juillet pour pouvoir commencer les travaux en septembre, pour éviter au maximum de logements de repasser un hiver avec les anciennes menuiseries.
Oui, ça c'est important aussi.
Voilà. Et en parallèle, à la fin de l'année, nous lancerons la consultation des entreprises pour l'ensemble des autres travaux, pour un démarrage de la deuxième tranche, printemps 2020. Donc en fait, on aura les travaux de la première tranche et de la deuxième tranche qui vont être en parallèle pendant quelques mois.
Alors on voit que les travaux, c'est rapide, entre 6 et 8 jours. Donc ça peut rassurer aussi les locataires de se dire, voilà, ils auront toujours de l'eau dans le logement.
Il y a toujours forcément le soir un point d'eau et les WC, bien évidemment.
Donc ce qui est important, effectivement, également, d'avoir toujours cette possibilité de...
Ça, c'est très important, bien évidemment.
C'est très important. Donc ça, ce sont les deux tranches de travaux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur cette réhabilitation?
Alors,
oui,
sur cette réhabilitation, c'est qu'en partenariat avec la ville et la COV, il y aura une requalification des espaces extérieurs. Donc là, dès la rentrée de septembre, dès l'automne, nous allons commencer à travailler pour, à la fin de la réhabilitation, pouvoir requalifier tous les espaces extérieurs au niveau parking, au niveau résidentialisation, etc., pour vraiment changer complètement l'image du quartier.
Du quartier. Une question, monsieur Philippe Brunet-Debène. Quand il y a une réhabilitation de ce type, je suis locataire, l'inquiétude, est-ce que les loyers vont pas? Alors, je sais bien que vous êtes contraint, vous faites le maximum, parce que ce sont quand même des logements sociaux, mais est-ce que les loyers ne vont pas augmenter?
Alors là, en l'occurrence, si, c'est très clair. Les loyers vont un petit peu augmenter, en effet, mais c'est totalement compensé par une baisse des charges. Vous savez que quand on raisonne en matière de logement social, on a tendance à se focaliser sur le loyer, mais il y a également les charges. Et là, l'intérêt justement de ces réhabilitations, c'est que l'investissement pour le bailleur est considérable, mais qu'on peut un petit peu augmenter les loyers et que surtout cela est totalement transparent, voire positif pour le locataire, puisque ça se traduit également par une baisse des charges. Pourquoi? Pour une raison très très simple à comprendre, c'est que comme on améliore la performance énergétique des bâtiments, et avec les préoccupations environnementales actuelles, c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui est positif à la fois pour le locataire, parce que globalement il vit dans un logement mieux isolé, mieux ventilé aussi, mais aussi bah, évidemment ça va se traduire par une baisse de sa facture énergétique, et globalement ça sert aussi à la planète tout entière. Donc on voit que c'est une opération triplement gagnante, et que l'augmentation de loyer, elle est totalement neutre, voire je le répète encore une fois, positif pour le locataire. propriétaires qui bénéficient d'une importante baisse de charges à la clé. Pour que le projet de financement d'une opération de réhabilitation soit validé par l'État et que nous proposions une augmentation de loyer, il faut que en face, on soit capable de démontrer qu'on va également baisser les charges et qu'en effet, ce sera neutre. Voilà, on est vraiment dans une politique de loyer qui reste tout à fait raisonnable et qui reste même très sociale. Hein. Nous restons un office public de l'habitat au service du territoire avec cette dimension sociale très ancrée dans notre ADN et ça ne va pas changer avec cette réhabilitation. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment rassurer les locataires. Certes, il y aura une petite augmentation de loyer. On l'aura écrit de manière individuelle pour leur préciser les choses. D'accord. Chaque locataire a reçu un courrier. On lui explique très précisément le calcul. Le calcul, il est dépendant de la typologie de logement concerné. Donc tout cela est totalement transparent et très clairement affirmé vis-à-vis du locataire. Et on a eu aussi des réunions avec les locataires pour répondre à toutes les questions sur ce point. On ne le cache pas du tout. Et c'est évidemment quelque chose de très important dans le projet de réhabilitation.
Et juste pour ajouter, justement, la concertation locative de la deuxième tranche a eu lieu au mois de mai. Et nous avons eu 95% de réponses favorables.
D'accord. Donc
y compris sur l'augmentation de 10% de loyer.
Alors, à partir de quelle date on pourra avoir une résidence totalement réhabilitée? Les Carpentraciens, les habitants, en gros, un délai? Dans un an,
fin 2020.
Ans. Fin 2020, donc on en passe.
21, pardon, fin 2021.
Fin 2021, oui. Une réhabilitation.
Oui. Terminée, oui.
Oui. Terminée. Monsieur Philippe Brunier-Deben, peut-être le mot de la fin.
Bah écoutez, le mot de la fin, c'est de se réjouir évidemment que ce projet, trop longtemps attendu par l'ensemble des locataires, puisse enfin aboutir. Moi, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce projet. Évidemment, Sophie et les équipes de Mistral Habitat qui sont mobilisées quand même depuis plusieurs années sur ce projet. Mais également l'ensemble de nos partenaires, parce qu'évidemment, il y a la clé des financements importants. La gouvernance, j'ai cité le nom du président du conseil d'administration de Mistral Habitat, Jean-Baptiste Blanc, qui nous pousse à juste titre pour qu'on avance enfin sur cette réhabilitation et qui est soulagé de voir que ce projet aboutit. Mais également l'ensemble de nos partenaires, l'État, bien entendu, hein, qui est un partenaire important qui valide le projet et le finance en partie. Et également, évidemment, la commune concernée, Carpentras, la COV, la communauté d'agglomération. Ce sont des partenaires sans lesquels rien ne pourrait se faire et avec lesquels on a construit ce projet au bénéfice des habitants. On a parlé des espaces extérieurs, c'est quelque chose aussi qui est fondamental parce qu'il n'y a pas seulement les logements, il y a aussi le travail qui a été fait sur l'inversement des entrées, sur la collecte des ordures ménagères, sur l'aménagement des espaces extérieurs. Il y a un city park, il y a tout un tas d'équipements aussi qui sont proposés et ça va faire du bien à l'ensemble de ce quartier, un quartier qui en avait vraiment besoin. Je n'oublie pas également qu'à Carpentras, nous avons d'autres projets également. Mistral Habitat à Carpentras, ce n'est pas seulement le Pou du Plan, oui. Il y a également les Amandiers. Il y a d'autres projets de réhabilitation. On a livré des logements aussi au sein de la ZAC des Croisières. Enfin, voilà, l'action du bailleur, elle est très importante sur ce territoire. On a aussi notre agence de proximité qui va sans doute prochainement déménager. D'abord parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit uniquement au Pou du Plan, alors qu'on a du patrimoine ailleurs. On va tout faire évidemment pour maintenir cette agence à Carpentras, qui reste la commune où d'abord nous avons beaucoup de patrimoine et qui est la commune légitime d'implantation d'une agence pour tout le Vaucluse et le comte Avenessin. Mais bon, tout ça doit être traité dans les semaines qui viennent. On est actuellement en recherche d'un nouveau local et on voit donc que Mistral Habitat sur ce territoire a beaucoup de projets et qui s'investit pour regagner le terrain un petit peu perdu ces dernières années en lien avec nos partenaires que sont les institutionnels et notamment la mairie et la communauté d'agglomération.
Voilà. Merci, on aura l'occasion de vous suivre sur tout ce projet, sur cette réhabilitation, puisqu'on aura l'occasion nous d'y revenir à plusieurs reprises. Et puis peut-être on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau, que ça s'appellera plus Mistral Habitat. On viendra nous présenter la nouvelle appellation de l'agence. En tout cas, merci Philippe Brunet-Deben. Je rappelle que vous êtes directeur général de Mistral Habitat. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci Sophie Rigolet, monteur d'opération en charge de la réhabilitation du Pou du Plan également. Ben, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement dans nos studios d'RTVFM pour nous présenter cette réhabilitation.
Et à très bientôt. Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Et l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble, toujours avec Josie, Mounia et René. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à quelques minutes, puisque les sujets nous n'avons pas abordé tous les sujets encore dans cette émission. Et il nous reste toujours sur la réhabilitation de la résidence du Pou du Plan à Carpentras, mais peut-être d'aller écouter un petit peu un témoignage, parce qu'on en parle, on parle entre nous. Vous êtes toutes effectivement, René parlait de Ville-Marie, il y a eu une réhabilitation. René, tu as connu ça également, puisque tu as habité les Amandiers.
Moi, c'est Josie.
Josie, pardon, tu as connu un petit peu les Amandiers.
Oui, effectivement, j'ai connu ça.
et c'était oula. C'était la première fois, je crois, que ça se faisait. On nous a fermé les balcons qui étaient une source de froid. On nous a changé les vieilles chaudières à charbon qui étaient dans l'entrée pour les chaudières à gaz. Mais heureusement, on nous a fait aussi des doubles vitrages. Sinon, tout ça n'aurait servi à rien.
Donc voilà, les réhabilitations, c'est toujours effectivement nécessaire. Alors là, je te demande, Josie, tu as capté le témoignage de Sabrina, c'est ça ?
C'est bien ça, oui. Une habitante donc du Pouls-du-Plan.
Du Pouls-du-Plan. Mais on va écouter un petit peu le témoignage pour clôturer ce sujet de la réhabilitation du Pouls-du-Plan. Alors, il y aura encore d'autres. On abordera encore, on suivra un petit peu cette réhabilitation du Pouls-du-Plan. Ça démarre, il y a deux tranches. Il y a une première tranche et une deuxième tranche. On aura encore l'occasion de...
dans cette émission, fil rouge, en fait. Hein.
Voilà, un fil rouge, de revenir sur cette réhabilitation dans cette émission. Et là, on va écouter, pour terminer ce premier sujet, on va terminer par le témoignage donc, d'une habitante qui s'appelle Sabrina.
J'ai avec moi une personne qui a assisté à la réunion et qui va nous dire un peu son ressenti.
Bonjour, je m'appelle Sabrina. J'habite au Pouls-du-Plan et j'insiste régulièrement aux réunions de réhabilitation. On a l'impression qu'on touche le bout. Ça va bientôt démarrer. Pour l'instant, on est satisfait de ce qui se passe. Ça prend un peu de retard, c'est sûr, mais ça va venir.
Est-ce que, donc, avec un peu de retard, vous dites, est-ce que vous gardez quand même espoir de voir que ça va bouger un peu plus vite?
Ah oui, bah oui, on garde l'espoir. On arrive un peu au bout. Vu qu'on a des plans, on a des schémas de rue et tout, ça va démarrer. Ça va venir.
Oui, je pense que ça a été très bien expliqué. Hein, donc, toutes les personnes présentes ont eu l'occasion de poser des questions. C'était justement le but de cette réunion. Hein. Donc, pour vous, personnellement, vous avez repéré à peu près dans combien de temps on aura les travaux chez vous?
Alors, moi, je fais partir de deuxième tranche. Ça veut dire qu'à partir de 2020. Mais normalement, c'est divisé sur trois parties. Mais maintenant, c'est que sur deux tranches, pas trois. Si on est satisfait de ce qu'ils nous proposent, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et c'est dommage qu'on n'est pas nombreux non plus dans ces réunions-là. Les personnes qui ne sont pas dans les réunions, ils ne savent pas où ce qu'ils en ont. Ils réclament des choses que ça ne va pas venir tout de suite.
Peut-être que vous pourrez en parler, vous, de ce que vous avez entendu à vos voisines et amies qui habitent là, pour qu'elles soient informées aussi. Mais comme vous dites, c'est dommage parce qu'après, elles seront les premières à poser des questions, à dire on est au courant de rien, alors que bon. Et qu'est-ce que vous pensez ça va se passer, donc ça va commencer, là, il y a l'été qui arrive, il y aura des rendez-vous de fait pour des états des lieux. Après, vous serez informé en temps et en heure du passage de ces personnes qui feront l'état des lieux. Pour les familles qui, par exemple, partiront en vacances ou je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que ça vous embête un peu?
Je ne suis pas du tout concernée parce que, moi, si je suis dans la deuxième tranche, les premières tranches, ça va démarrer qu'à partir de septembre. Je pense que les vacanciers seront déjà de retour. Voilà. Mais je pense aussi que l'entreprise, elle arrive à gérer ses rendez-vous et les travaux par rapport aux habitants.
Est-ce que vous attendiez quelque chose qu'on n'en aurait pas parlé aujourd'hui à la réunion? Est-ce que vous aviez un sujet à évoquer que vous n'avez pas osé peut-être poser la question?
Non. Dès qu'on pose la question, on a la réponse. On est au courant de tout pour l'instant, ça va. Voilà. Et après, quand on ira à l'état de lieu avec des personnes, des travaux, c'est vrai que on va être un peu gêné par rapport au déménagement des chambres, si on a des cuisines équipées et tout, ça va un peu être compliqué, mais sinon, on verra avec le moment arrivé.
Oui, je pense que chaque cas sera particulier. Il y a des personnes qui vont être ennuyées par justement être obligées de démonter des meubles, et en même temps, ils sont obligés d'en passer par là. Hein, voilà. Après, il y a une dame, j'entendais, qui proposait pourquoi pas changer le nom du quartier, je suis un peu du plan. Elle disait on fait un nouveau départ, changer le nom. Vous en pensez quoi, vous?
Ça sera pas plus mal. Nouveau départ, nouveau logement, nouveau quartier, propre, j'espère. Voilà. Et pourquoi pas changer de nom?
Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis j'espère que vous transmettrez donc un peu les paroles au voisinage. Merci beaucoup. Au revoir.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, on vient de clôturer ce sujet sur la réhabilitation du Pou du Plan. Non, parce qu'on aura encore l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans une autre émission à la rentrée, sûrement de Quartier Libre. Et là, on va passer sur le deuxième sujet. On va parler du Pédibus. Alors, le Pédibus, c'est un service de transport et mobilité de la COV, donc il travaille sur un projet qui s'appelle le Pédibus. C'est le transport scolaire pédestre à Carpentras. Un essai a eu lieu le 14 mai dernier. Et justement, ce Pédibus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du principe, René, du Pédibus ?
Alors, le principe du Pédibus, ce sont des enfants qui partent donc du bois de Lubac jusqu'à l'école de la Quintine et qui sont encadrés donc par des mamans, par un accompagnateur et par certainement la police municipale qui sera là pour la sécurité donc du cortège qui ira du bois de Lubac à l'école de la Quintine.
École primaire et maternelle de la Quintine.
Voilà, tous les enfants qui vont à l'école à pied donc prendront le chemin, et bien le chemin des écoliers à pied.
Alors pour ce deuxième test que nous allons écouter les interviews qui ont été réalisées par Florian, il y a eu 12 enfants, 3 adultes, ce qui est plutôt encourageant pour un second test du Pédibus. D'abord, il y a des tests qui sont faits pour savoir un petit peu si les parents vont suivre ou pas suivre, et ça a pas mal fonctionné. Et il y en aura un troisième, il y en a eu un troisième qui est intervenu à mi-juin. Donc voilà, il y a eu 3 tests grandeur nature pour ce Pédibus, pour cet accompagnement des enfants de leurs parents sur, comme tu disais, des écoles de leur lieu d'habitation.
Ce qu'il faut bien signaler, pour les gens qui connaissent un petit peu la route du bois de Lubac, ils ne passeront pas par la route principale, ils passeront par derrière.
Hein. D'accord.
Voilà, ce sera plus sécurisé.
D'accord, mais en tout cas, voilà, comme je le disais tout à l'heure en début de propos, c'est la COV qui travaille sur ce projet de Pédibus, mais il n'y a pas que la COV, il y a Ville-Marie qui est derrière. Il y a beaucoup de monde, je crois, qui est associé à ce projet.
Oui, il y a beaucoup de monde. Et puis bon, ben, il y a les parents qui se sont surtout investis et beaucoup d'habitants qui n'ont pas d'enfants qui, eux, se sont investis dans le projet pour la sécurité des enfants.
Ben, c'est une très, très bonne chose. Alors, nous allons écouter le premier interview. Je crois que c'est le témoignage. Non, ce n'est pas un témoignage. C'est qui nous en a écouté comme
Alors, nous allons écouter Thierry Petrone, qui est référent pôle adulte et accompagnateur du projet du centre social Ville-Marie.
Je me trouve maintenant avec Thierry Petrone, référent pôle adulte à Ville-Marie. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Thierry, aujourd'hui, nous sommes sur le deuxième essai de Pédibus. Déjà, est-ce qu'on va pouvoir nous préciser c'est quoi le principe de Pédibus ?
Le principe du Pédibus, c'est d'accompagner toute personne, en l'occurrence des enfants, de leur lieu de vie, à partir du bois de Lubac, jusqu'aux écoles cantines primaires et maternelles, en toute sécurité.
Est-ce que ce projet émane d'une demande, d'une attente particulière ?
Alors, c'était suite à l'Assemblée générale de 2018 de Ville-Marie, qu'il était remonté au niveau des habitants qu'il y avait un problème de sécurisation puisque la voie est assez dangereuse, retrécie, les trottoirs sur une partie ne sont pas là et qu'il fallait essayer de trouver une solution. Donc en parlant, on a trouvé une solution de Pédibus qui pouvait aussi bien impliquer les parents que la collectivité mairie et communauté de communes la COV pour permettre de trouver une solution pérenne est sûr à ce problème de sécurisation.
Et justement, au niveau sécurisation, qu'est-ce qui a été mis en place ?
Alors, on a commencé à travailler avec les habitants, la COV, la municipalité, pour pouvoir comment mettre en place un projet Pédibus. Donc, on a fait une information, on a fait un questionnaire auprès des habitants sur leurs habitudes de trajet, voiture, pas voiture, fréquence, matin, soir. Et là, on a commencé à mettre en place une première fois le projet Pédibus, après cette enquête, après avoir justement été discuté avec les parents tous ensemble. Et le résultat, c'est qu'on en est au deuxième, que petit à petit, c'est le premier groupe qui est venu la première fois qui revient. D'autres viendront parce qu'il faut faire un socle fondateur par rapport à ça. Et puis on espère que ce sera viral, surtout pour la rentrée de septembre.
Combien de bénévoles vont être formés peut-être aux règles de sécurité routière ?
Alors on espère le plus possible puisqu'on va mettre en place un planning. Donc un des points qui était le plus important, qui était ressorti, c'était la confiance donnée aux personnes accompagnantes. Donc Ville-Marie, en ce sens, connaît est bien implantée et a la confiance des habitants. Donc au début, on va les accompagner pendant quelques jours. Et on va mettre en place un planning où les parents laisseront les enfants à d'autres parents, et ainsi de suite. On espère que là, effectivement, ça va fonctionner.
Et donc, à partir de quand ce projet devrait être mis en place ?
Pour la rentrée de septembre. Sans doute pas la première semaine, mais la deuxième semaine.
Et comment a été choisi le trajet ? Est-ce qu'il y a eu un trajet en particulier, en fonction de plusieurs critères ?
Alors, on a fait le trajet plusieurs fois, tous ensemble. Et puis, pour trouver un accès à un moment donné qui permettait de mieux sécuriser. C'est comme ça qu'on est passé par un autre chemin, que même moi je ne connaissais pas, et qui, au niveau du temps, est exactement la même chose. Par contre, il est très sécurisant pour les enfants.
Quelle est la durée du trajet en moyenne? Bon, on l'a vu ce matin encore sur le deuxième essai.
10 minutes. En marchant normalement, quoi. 10 minutes, ouais.
Et est-ce qu'une signalétique particulière a été mise en place? Des panneaux? Je crois qu'il y a aussi eu le rôle des enfants, peut-être de la cove aussi rentrer en compte dedans.
Alors, oui, il y aura une signalétique particulière, puisqu'il y aura des arrêts pédibus comme des arrêts de bus. Donc, les enfants de la LSH de Ville-Marie ont travaillé sur la signalétique. Et les panneaux seront mis dans le planning, seront mis en place très rapidement. Quoi. Il y aura aussi un chemin qui sera fléché par des pas indiquant le chemin sur la voie la voirie.
Donc il y a aussi eu l'implication des enfants, comme vous disiez.
Il y a aussi l'implication des enfants. On a essayé de faire marcher tout le monde pour que tout le monde puisse s'impliquer et avoir des idées et avancer.
Thierry Pétrone, vous avez peut-être quelque chose à rajouter?
J'espère que ce projet, on va le mener à bien, parce qu'on a tous envie qu'il puisse exister, vraiment. Et donc il y a plein de bonne volonté. Bon, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci beaucoup Thierry Pétrone. Je rappelle, vous êtes référent pôle d'adultes à Ville-Marie. Merci.
Merci à vous.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, on va continuer dans le cadre du Pédibus, puisque maintenant on va écouter Jérôme Rondel du service transport de la COV. Toujours, il a été interviewé sur le test du 14 mai. Il va s'expliquer sur son rôle, justement, sur le rôle de la COV dans le cadre de Pédibus. On l'écoute.
Bon, avec Jérôme pour aujourd'hui, donc Pédibus. Jérôme qui est au service transport public de la COV. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler peut-être de votre travail, en quoi il consiste, et puis aujourd'hui, votre présence pour cet événement Pédibus?
Oui. Bonjour, donc au service transport de la COV, on essaye d'organiser le transport public sur la COV, ainsi que la mobilité en général. Ça sous-entend éventuellement d'autres modes de déplacement qui viennent compléter le transport public sur le territoire de la COV.
Aujourd'hui, on faisait le point, combien de familles pour ce deuxième essai, c'est ça?
Ce deuxième test, tout à fait. Donc là, on a 12 enfants et 3 adultes, ce qui est plutôt encourageant pour un second test. Et il y aura un troisième test qui interviendra à la mi-juin.
À mi-juin, avant un démarrage, logiquement, à la rentrée.
Tout à fait. Juste après la rentrée de septembre, pour les dernières mises au point, et puis surtout réactiver les habitants, essayer de les maintenir pour qu'ils soient toujours intéressés par ce projet.
Et au niveau transport public, la COV, en quoi ça vous a consisté? Peut-être vous avez mis quelque chose en place?
Alors on essaye de coordonner un petit peu tout avec le service de la police municipale de la ville de Carpentras, le service voirie de la ville de Carpentras également, le centre social Ville-Marie qui a un travail très très important sur le terrain. Donc ils sont présents avec nous ce matin aussi, bien sûr. Et avec toutes ces personnes, on essaye de faire vivre ce projet, de le faire prendre surtout, pour que les habitants s'en emparent et participent activement.
Voilà, ben, on continue sur Pédibus. Alors, le rôle quand même de cette émission, c'est d'aller sur le terrain, de faire des interviews comme il vient d'être réalisé, comme a réalisé Florian, René, Josie. Également de prendre des témoignages d'habitants et d'habitantes. Alors là, on va écouter le témoignage de Slavika, qui est mère de famille. Elle participait donc à cette deuxième essai de l'action Pédibus. On va voir ce qu'elle en pense un petit peu et son retour. On écoute.
Je me trouve maintenant avec Slavika, mère de famille, qui a participé aux essais de Pédibus, qui sera donc mis en place à la rentrée prochaine. Bonjour Slavika.
Bonjour.
Pourquoi avoir participé peut-être à ces essais de Pédibus?
Surtout pour la sécurité des enfants, par rapport à la circulation, tout ça. Donc on a fait l'essai et ça s'est bien passé, donc j'espère que ça va continuer pour la sécurité des enfants.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet?
L'intention qu'on porte aux enfants pour la sécurité de la route.
Et justement, en parlant de sécurité, la sécurisation mise en place, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui a été important pour cette sécurisation?
J'ai remarqué que c'était important de montrer aux enfants avant tout la sécurité, qu'il y a beaucoup d'accidents et tout ça. Et je trouve que c'est un beau projet, j'espère que des parents vont se porter volontaires.
Donc je suppose que vous conseilleriez à d'autres parents de rejoindre en tout cas cette action?
Tout à fait, c'est ça.
Ce matin, sur le premier essai, combien vous étiez de famille à peu près? Vous savez le nombre?
Je pense 13 enfants.
13 enfants, et là à peu près?
Pareil, 13.
Et vous avez découvert comment ce projet?
Parce qu'en fait, il y a eu une réunion au bois de Lubac à Carpentras. Donc la directrice de l'école de la cantine est venue avec la police municipale. Et donc ils ont parlé du projet. Il y avait beaucoup de parents présents ce jour-là. Et donc après, ben, le projet après pour la première fois. Donc là, c'est le deuxième essai. Ça se passe plutôt pas mal. Les enfants ont bien aimé aussi faire le parcours et tout ça. C'est pour leur sécurité.
Merci, Slavika.
Merci.
Voilà, vous venez d'écouter ce témoignage positif de cette dame, Madame Slavika, qui a bien parlé justement de Pédibus. On arrive presque au terme de cette émission, mais Mounia, c'est quand même important, comme on le fait dans chaque émission de Quartier Libre, c'est présenter un petit peu l'activité pour les quartiers, et l'activité surtout de Tricadou, et éventuellement, moi je parlerai en 30 secondes de Ville-Marie. Je te laisse la parole, Mounia.
Alors, tu vas nous donner un avant-goût des vacances, puisque tu nous vas parler du programme de juillet-août.
Oui, c'est ça, voilà. À partir du mois de juillet, du 11 et le 12, il y aura des sorties familiales adultes, mère grande monte. Après, il y a cuisine d'été, repas partagé, modalité inscription obligatoire sur Tricadou.
Oui, à la Tricadou directement, Tricadou. Au centre social, oui.
Et si jamais vous avez besoin de renseignements ou plus d'informations.
Ou approchez-vous d'un des accueils de votre quartier.
Des accueils des quartiers pour avoir la totalité de l'agenda. Et c'est un agenda papier également sur Internet, Josie.
Voilà.
Pour avoir
oui.
la totalité des renseignements.
Sur Internet, non, il n'y a plus de site Internet.
Non, mais par contre, par téléphone aussi à l'accueil, on peut avoir les renseignements.
Oui, voilà. Donc il faut retenir surtout qu'il y a par semaine trois sorties intéressantes. Et bon, des ateliers, des jeux. Enfin, bon, comme vient de dire Mounia, le mieux c'est de s'approcher des accueils. Parce qu'il faut réserver, donc il y a des dates limites aussi. Hein.
Merci Josie, également très très vite sur Ville-Marie, il y a deux sorties mères, bus, c'est une sortie famille. Il y aura également une sortie toujours pour cet été, pour juillet-août, une sortie à Saint-Martin-d'Ardèche, toujours une sortie famille. Il y aura une soirée adulte pour le Festival d'Avignon, donc on n'a pas marqué. Il y aura également un tournoi de pétanque au Boulodrome. Il y aura au lac de Mormoran une sortie famille également, toujours sur Ville-Marie. Une activité moulinée plus bois de Lubac en soirée, ça c'est une petite surprise, c'est une activité. On n'en sait pas plus. Et pour les seniors, en soirée, il y aura les transarts, les sorties transarts à Carpentras. Une soirée théâtre, je vois René qui fait ouais. Une sortie théâtre en fin de journée également. Pour plus de renseignements, tout simplement, vous allez sur le site également de Ville-Marie ou par téléphone à l'accueil. La personne qui est à l'accueil se fera un plaisir à vous répondre. Voilà les deux centres sociaux. Il vous suffit d'aller à l'accueil, de téléphoner, de vous déplacer et vous aurez la totalité de ces sorties. Voilà.
Vous n'aurez pas d'excuses si vous vous êtes ennuyé pendant les vacances.
Tout à fait, parce qu'il y a vraiment de quoi. S'occuper, même si on habite dans les quartiers de Carpentras. En tout cas, merci à toutes et toutes. Merci de votre fidélité. Quartier Libre maintenant terminé. On se retrouvera pour un prochain numéro exceptionnellement. Courant juillet, un petit peu plus tard, vous aurez un deuxième numéro de Quartier Libre. Donc restez bien à l'écoute et il y aura une deuxième émission. À très bientôt. Au revoir Josie. Au revoir René. Au revoir Mounia.
Au revoir Alain. À très bientôt.
Vous venez d'écouter Quartier Libre, une émission réalisée par les bénévoles des centres sociaux et culturels du Tricadou et de Ville-Marie en partenariat avec le Commissariat Général à l'égalité des territoires, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin et la ville de Carpentras.